19h passé de 1 minute et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est Curieux Ciné. Curieuses et curieux du jour, bonjour. Dimanche dernier, alors qu'infusait mon stress sur Minecraft pendant que se desservait ma tisane, ou l'inverse, je lance le replay de Beau Geste du dimanche précédent. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Beau Geste, c'est l'hebdomadaire cinéma de France 2, un programme qui suit Pierre Lescure s'entretenir avec des invités, en général actrices ou acteurs, c'est jamais que de la télé. Bon, je dis ça, je suis un peu mauvaise langue, puisque si la part belle est donnée au visage du cinéma français, ce n'est pas seulement à ces personnes qu'on tend le micro. Beau Geste propose aussi des reportages divers, ça va des écoles de cascadeurs au fonctionnement des cinémas en pleine guerre en Ukraine et énormément d'autres choses. Et le numéro que je regardais, c'était sur la grève à Hollywood. On voyait plusieurs images entre les grèves des scénaristes, les grèves des actrices, entrecoupées de réactions d'acteurs et actrices françaises. C'était assez amusant de voir François Cluzet imitable François Cluzet parler de son soutien aux grèves Hollywood, dans la mesure où il ne lève pas le petit doigt. C'est intéressant, je ne dis pas ça pour heurter les acteurs et actrices françaises, mais juste à côté, quelques années avant, j'avais vu un court-métrage de la CGT, puisque la CGT faisait des incursions dans les cinémas et parlait de l'époque où il y avait des mouvements sociaux qui réunissaient des actrices et acteurs du cinéma français. On voyait Jean Marais, Simone Signoret, main dans la main dans la rue de Paris pour lutter contre une forme d'impérialisme américain dans l'économie du cinéma. Est-ce que dans les mois, les années qui viennent, on pourrait revoir ça à l'heure des plateformes et des intelligences artificielles et d'un nouvel impérialisme peut-être, qui sait, on ne sait pas. Moi non plus, je ne sais pas.
Curieux Ciné,
d'après le Robert De Niro,
désigne une tendance qui porte à apprendre, à connaître des choses nouvelles et cinéphiles. Rencontre avec des réalisateurs,
entretien avec des chercheuses et autres spécialistes du cinéma,
micro tendu aux personnes qui font vivre le 7e art,
et des chroniques sonores,
ressentis imagés.
Un vendredi sur deux à 19h sur
Radio Campus Paris.
Bonsoir et bienvenue dans Curieux Ciné. Vous l'aurez compris, les grèves des scénaristes et des actrices qui marquent Hollywood depuis cet été sont à l'honneur dans ce deuxième numéro. On revient sur les raisons qui ont conduit à ces grèves, entre salaires et conditions de travail à l'heure des plateformes de streaming, de menaces de l'intelligence artificielle sur la création états-unienne et dans le monde. Et on arrivera aux accords qui ont abouti entre chaînes et plateformes pour l'instant avec la Writers Guild of America, donc la guilde des scénaristes américaines. Et on va arriver aussi avec la France et le monde aussi, avec la question des intelligences artificielles et de la menace potentiellement des plateformes de streaming. Le tout, bien sûr, avec des invités, ce soir au nombre de deux. Bonsoir Kira Kitso-Panidou.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de l'UFR Arts et Médias de l'Université Sorbonne Nouvelle et spécialiste de l'économie, du cinéma et de l'audiovisuel. Et bonsoir Sabine Lestoum.
Bonsoir.
Vous êtes déléguée générale de scénaristes de cinéma associés, association créée en 2017 regroupant et représentant le métier de scénariste de long métrage, donc uniquement cantonné au cinéma. On reviendra sur cette spécificité plus tard. Une association qui a signé notamment une tribune dans Le Monde qui s'intitule « Intelligence artificielle, construisons dès aujourd'hui une IA de rang mondial respectueuse de la propriété littéraire et artistique ». Vous avez le casting de cette émission. Vous aurez aussi pendant 7 heures quelques interstices humoristiques avec les publicités de Rosalie Berne et l'intervention de Maxime Faciotti que je découvrirai en même temps que vous. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Merci d'écouter Curieux Ciné. Je reviens sur sur ce court-métrage que j'ai vu il y a quelques années où on voyait Jean Marais, Simone Signoret dans la rue, et pas que, puisqu'il y avait tout le cinéma français qui était dans la rue à l'époque du plan Marshall face à l'impérialisme américain. Est-ce que vous imaginez Kira Kitso-Panidou et Sabine Lestoum, c'est une question ouverte, un mouvement social pouvant réunir, je sais pas qui est l'équivalent de Jean Marais et de Simone Signoret aujourd'hui, mais entre guillemets, la grande famille du cinéma français demain dans la rue face potentiellement aux intelligences artificielles ou aux plateformes. Je vous laisse. C'est une question ouverte. Qui veut commencer, Kira Kitso-Panidou?
On peut les imaginer. Faire cela à supposer que le droit d'auteur en France ne protège pas davantage les auteurs qu'aux États-Unis. En fait, on pense que le droit d'auteur, il est beaucoup plus important en France parce qu'on est dans un pays latin avec une tradition qui protège l'auteur. Donc peut-être qu'on se sent trop protégé par rapport à la technologie ou qu'il n'y a pas suffisamment de prise de conscience ou tout simplement qu'on est dans un pays de cinéma d'auteur où ces avatars totalement numériques semblent peut-être encore à un niveau de science-fiction pour le cinéma français, même si ça arrive aussi en France, dans un certain cinéma, un spectacle, un gros spectacle.
Sabine Le Soum, vous avez quelque chose à répondre. Déjà, est-ce que vous imaginez possiblement un mouvement social réunissant tout le cinéma demain? Et puis en réponse aussi peut-être à ce que vient de dire Kira Kitsopanidou.
Alors oui, je pense que ce serait tout à fait possible. Je n'ai aucun doute que s'il y avait une menace existentielle sur le cinéma français, comme il y a pu en avoir au sortir de la guerre, où toutes les structures de production étaient exsangues et ils ont eu le sentiment qu'ils allaient disparaître, là, je suis certaine que ce serait l'Union sacrée, aucun doute. Après, cette menace existentielle, est-ce qu'elle viendra, est-ce qu'elle se manifestera d'une façon aussi immédiate et brutale qu'à l'époque, c'est pas certain. L'intelligence artificielle, ça peut en être une. L'avenir est entre nos mains, j'ai envie de dire. Donc c'est trop tôt pour le dire.
On va revenir sur... Il y a le terme droit d'auteur qui a été esquissé. Il y a la question de l'intelligence artificielle aussi qui a beaucoup animé les débats à Hollywood et pas que, puisqu'il y a eu aussi cette tribune dans Le Monde. Donc ça agite aussi la France, ça agite aussi l'Europe, ça agite le monde en général. Mais donc pour l'instant, le mouvement social n'est pas encore là en France. Il a eu lieu aux États-Unis. Ça a commencé vers le mois de mai-juin. J'en ai oublié les dates.
Au printemps de mai.
Il y a eu une cent-cinquantaine de jours de grève engagé déjà avec les scénaristes et qui a été rejoint par les actrices. Kira Kitsopanidou, est-ce que vous pouvez nous esquisser un portrait des raisons qui ont amené à cette grève? Donc il y a l'intelligence artificielle, mais aussi aux États-Unis les conditions de travail, puisque comme vous le disiez, il y a un peu moins de protection, en tout cas d'apparence, aux États-Unis.
Tout à fait. Les raisons, en fait, on reprend depuis la dernière grève des années 2000, ou à peu près une centaine de jours de grève, pour revendiquer une rémunération des acteurs sur les recettes, même du streaming. Donc les streamings étaient encore à ses débuts, mais les scénaristes étaient déjà en train d'imaginer ce que l'avenir pourrait leur réserver en termes de risque de ne pas pouvoir partager la valeur équitablement avec les nouveaux diffuseurs. Donc on voit qu'on est dans la continuité. Entre-temps, les streamings ont pris une ampleur quasiment de changement et de bouleversement paradigmatique dans l'organisation de la filière, avec donc des revenus qui, entre les années 2000 et aujourd'hui, ont énormément progressé parce que les plateformes siègent maintenant dans les grands consortiums de producteurs hollywoodiens, alors que les revenus des auteurs et des producteurs, eux, ils ont un peu diminué, disons effondré même pour ce qui est des scénaristes. Et donc, quand on voit cette bulle magnifique de la série, par exemple, sur les streamers qui nous fait rêver, hein, quand on est scénariste avec 600, 700 nouvelles séries, on se dit quelque part, il y a un problème si on ne voit pas la valeur de ce qu'on crée revenir au niveau de notre quotidien et nous permettre de vivre dignement. Et ce qu'ils ont réalisé, les scénaristes aux États-Unis, c'est qu'ils ne peuvent plus vivre de leur plume, en tout cas pour les scénaristes qui sont en bas de l'échelle. Je ne parle pas de gros showrunners qui, eux, touchent des chèques de plusieurs millions de dollars.
Sachant qu'il y a la question du revenu, mais il y a aussi la question des conditions de travail, puisque, alors on parlera aussi des termes de l'accord, mais en tout cas pour la question spécifique des scénaristes de séries aux États-Unis, peut-être qu'en France aussi, et en Europe, il y a des similitudes, mais il y a aussi la question du nombre de scénaristes pour une seule série, pour une seule quantité d'épisodes.
Voilà. Je sais pas si vous voulez. D'écriture, normalement, une douzaine des scénaristes est nécessaire en présence dans une salle d'écriture, et au fur et à mesure que la durée des séries a été raccourcie par les streamers, au fur et à mesure que la durée même des épisodes a été diminuée, il y avait moins d'opportunités pour les scénaristes d'être formés et déjà d'avoir une régularité de travail. Donc tout cela, ils l'ont dénoncé depuis le début en disant qu'on travaille sur des séries de plus en plus courtes, avec des durées de plus en plus courtes, et les ateliers sont en train de se réduire à 6 scénaristes tout au plus, parfois même un peu moins, et dans ces conditions-là, on n'a pas le temps de former les nouvelles générations, mais aussi de leur garantir des conditions de travail qui remontent de recettes pour eux.
Il y a les plateformes de streaming ont été depuis la grève des années 2000, elles se sont installées, elles se sont durablement dans le paysage audiovisuel américain, aussi dans le paysage audiovisuel français depuis, puisque notamment Netflix est arrivé en France en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Sabine Lestoum, est-ce que vous avez vu aussi dans les conditions de travail des scénaristes, en l'occurrence des scénaristes de cinéma, peut-être que vous pouvez aussi en profiter pour parler de la spécificité de scénaristes de cinéma associé. Est-ce que vous avez vu aussi une complication des conditions de travail des scénaristes en France, ceux que vous représentez ou ailleurs d'ailleurs ?
Oui, il y a une précarisation en fait, d'abord assez générale des auteurs, et les scénaristes de cinéma n'y échappent pas. Et il y a aussi une tendance à faire peser un risque de plus en plus important sur les épaules d'un scénariste. C'est-à-dire que sa rémunération, non seulement les rémunérations stagnent, voire diminuent, mais en plus, il y a des parts de plus en plus importantes qui sont mises en risque, c'est-à-dire qui sont versées uniquement si le film se fait. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a mené une enquête, nous, auprès de nos scénaristes, sur deux contrats qui signent. Il y en a un seul qui va aboutir à un film qui se fait. Hein, donc on est à peu près, du point de vue de l'auteur, hein, les films ne se font pas toujours. Il y a beaucoup de développements qui sont faits, c'est une activité de créative, de recherche, et le financement n'est pas toujours trouvé.
Ça fait partie du métier en vérité, parce qu'on voit...
Ça fait complètement partie du métier, ça permet de former aussi d'ailleurs des scénaristes. Donc oui, il y a une précarisation, et il y a aussi un enjeu de rémunération très fort pour les scénaristes de cinéma en France... à la fois du point de vue des montants qu'ils peuvent toucher, mais aussi du point de vue de la part qu'ils mettent en risque en fonction de la production ou non du film.
Sachant que dans le cas de films qui, au final, ne se font pas, il n'y a même pas une petite avance qui est faite aux scénaristes.
Si, toujours.
Mais évidemment, jamais assez pour...
Disons qu'ils perdent une part significative de leur rémunération.
Ils vont
mettre en risque, on peut dire à peu près, ça peut aller jusqu'à 30%. Parfois, on voit même des propositions qui vont jusqu'à 50%, où là, c'est vraiment beaucoup trop. Ça veut dire, par exemple, si on vous dit vous serez payé tant pour écrire un scénario, vous écrivez le scénario, hein, ça, le travail, il est fait. Mais il y a 30% de cette rémunération qui ne sera pas touchée si le film ne se fait pas. C'est ce mécanisme que j'explique.
Le prix des scénarios, justement. Donc, ils ne vont pas au-delà d'un certain prix de scénario pour couvrir les autres étapes de développement ou de réécriture si c'est nécessaire. Alors qu'aux États-Unis, quand un scénariste vend une option à son projet, il peut vivre de l'option aussi longtemps que le studio rachète derrière le droit à l'option. Et donc, il peut vivre d'un projet qui ne s'est jamais tourné.
Donc, le droit à l'option aux États-Unis, ça consiste en quoi ? C'est une espèce de contrat ? Comment ça se passe ?
C'est un contrat pour avoir l'exclusivité du projet. Si jamais le studio décide de développer le projet et passer à la phase de fabrication. Donc, pour garder le droit exclusif sur le matériau, un studio prend une option sur l'objet, même s'il n'est pas développé, même s'il n'est pas tourné, le scénariste, il va continuer à générer des recettes à partir de ce projet-là.
Et il va toucher un salaire grâce...
Le salaire qui correspond à l'option, à l'achat de l'option.
N'existe pas dans ces termes, on va dire, en France.
Oui.
Sabine Lestoum.
En fait, déjà, en France, les auteurs ne sont pas salariés, hein, ce ne sont pas des employés, ce sont des auteurs. Donc,
qui relèvent pour beaucoup du régime des artistes-auteurs.
Oui, c'est ça, c'est le régime, c'est le droit de la propriété intellectuelle et c'est le régime des artistes-auteurs. Donc, c'est un régime qui est beaucoup plus protecteur hein, que le régime américain, ça, il faut quand même le dire. La raison pour laquelle les scénaristes se sont mis en grève aux États-Unis, c'est qu'en fait, ils ne sont pas titulaires des droits. Des œuvres qu'ils écrivent, ce qui semble presque une aberration en fait du point de vue français, où le réalisateur, l'auteur, le compositeur sont les auteurs et donc les titulaires des droits. Et ce qui se passe, c'est qu'ils créent des œuvres et ils cèdent leurs droits à des producteurs en échange donc évidemment d'une rémunération. Donc pour en revenir à cette question des américaines, les auteurs n'étant pas titulaires des droits de propriété littéraire et artistique qui sont vraiment le cœur en fait de la valeur économique d'une œuvre, ils se sont unis et alliés pour... Ils sont des employés en fait et donc ils négocient comme des salariés négocieraient dans un contexte...
Dans un accord de branche.
Voilà. C'est ça. Sauf qu'il faut dire une chose aussi, c'est important de le comprendre quand même, pour pas s'imaginer des choses sur le contexte américain, c'est que la VGA, notamment la guilde des scénaristes américains, elle ne représente pas du tout tous les scénaristes américains. Elle ne représente pas non plus tout le cinéma américain. Je connaissais un chercheur qui avait fait une étude et qui montrait que, par exemple, dans les films primés à Sundance, les films américains, la moitié seulement des auteurs étaient à la VGA. Donc c'est juste pour dire que c'est une corporation, qu'elle organise bien les choses, hein, et elle se bat pour ses scénaristes, etc. Mais elle ne représente pas tout le monde. Ils se sont organisés parce qu'ils n'ont pas de droit. Et donc, tous les 3 ans, ils renégocient, en fait, les termes d'un, ce qu'on appelle le minimum basic agreement, c'est-à-dire d'un accord minimal de rémunération. Et c'est pour ça qu'ils ont fait grève. C'est qu'à l'occasion de cette renégociation qui est normale et qui s'effectue tous les 3 ans, ils n'avaient pas obtenu ce qu'ils voulaient. Et ils se sont mis en grève pour obtenir mieux. Et ce qu'ils ont obtenu, et on en est très contents.
Et ben on en est contents. On va parler aussi de ce qui a été obtenu par la Writers Guild américain. On fera aussi une petite incursion du côté des acteurs et actrices, puisqu'il y a aussi le syndicat dont j'ai oublié le nom, le syndicat des actrices et acteurs américains qui est en grève et qui l'est toujours. Voilà, merci beaucoup. C'est un syndicat qui est toujours en grève pour le coup. On pourra revenir là-dessus après une pause musicale. Il est 19h17. Let me rest, I'm not insane. Fly alone makes me proud. Let me just go. You're no one. A dying suit, your voice is loud. And you have such a nervous look. Hey, hey. Hot coffees and a burning cigarette. Shining letters on your marble desk. Cause you're an insane campaign. Insane de Bertrand Blessing, qu'on retrouve dans le film En guerre de Stéphane Brisé. C'est une autre, et qui parle de grève, c'est une autre grève dont on parle ce soir sur Radio Campus Paris. Il est 19h20.
Curiosiné, un vendredi sur deux à 19h sur Radio Campus Paris.
Une autre grève dont on parle ce soir dans Curiosiné, les grèves à Hollywood, celle des scénaristes et des acteurs. Une grève qui pour l'instant se termine un peu mieux que le film En guerre. Je ne sais pas si vous avez vu En guerre de Stéphane Brisé, ça ne se termine pas forcément très bien. Pour le coup, aux États-Unis, en tout cas pour les scénaristes, il y a eu un accord. Sabine Le Soum, juste avant la pause musicale, vous disiez que vous vous en réjouissiez. Est-ce que vous pouvez un peu parler de votre satisfaction après cette signature?
Ils ont obtenu beaucoup de choses, notamment au niveau des rémunérations. Ils ont obtenu des augmentations sur les 3 ans qui vont de 5 à... Enfin, c'est graduel, mais 5%, puis 4, puis 3. Donc c'est très bien parce qu'aux États-Unis, le coût de la vie a fortement augmenté. Hein, donc parfois on voit des montants dans la presse, on se dit « Oh là là, les scénaristes aux États-Unis roulent sur l'or ». Ce n'est pas du tout le cas. La raison pour laquelle ils se sont mis en grève, c'est aussi que c'était plus possible de vivre à Los Angeles en étant scénariste, même en travaillant régulièrement. Donc on est déjà très contents pour eux. Ils ont obtenu des meilleures conditions de travail aussi en termes, vous le disiez madame, en termes de nombre de scénaristes par salle d'écriture, etc. Et puis, ils ont obtenu des garanties sur l'intelligence artificielle qui sont vraiment très importantes. C'est vraiment un terrain qu'on est en train de défricher. Et donc, ça nous aide beaucoup qu'ils aient pu obtenir ça. Et ça aide
à la réflexion aussi.
Ça va aider à la régulation. Là, on n'est pas au niveau de la réflexion. Il faut réguler. Le Parlement européen a commencé et il faut qu'on s'y mette très rapidement, j'ai envie.
On va arriver dans un instant à la question de l'intelligence artificielle et à la question de l'Europe aussi, parce que si on parle des questions d'intelligence artificielle aussi de plateformes de streaming, l'Europe a une place très importante. Mais d'abord, Chiara Kitsopanidou, notamment dans l'accord, il y a la question du nombre de scénariste dans l'écriture de séries, dans les writers' rooms. Il est question de 5 scénaristes dans des séries qui vont de 7 à 12 épisodes selon l'accord négocié par la Writers Guild of America. Et à partir de 6 auteurs quand la série fait plus de 13 épisodes. Est-ce que un scénariste de différence, ça crée des conditions de travail un peu plus faciles? Est-ce qu'il y a une satisfaction? Est-ce qu'il y a des doutes qui sont émis aussi de la part des syndicats, ou est-ce qu'ils ne font part que de leur satisfaction? Pardon.
C'est pas qu'à la marge. Là, un scénariste, c'est vraiment à la marge. C'est la souplesse que doit avoir celui qui dirige l'atelier d'écriture de pouvoir engager autant que besoin pour tenir un rythme de production des fabrications, parce que les délais de production sont extrêmement serrés. Il y a des scénaristes qui travaillent jour et nuit pour pouvoir maintenir un rythme de production régulier afin que les clients finaux de la plateforme puissent avoir sa nouvelle saison en temps et en heure pour se réabonner. Donc, il y a une vraie pression sur les salles d'écriture. Donc, plus une salle d'écriture est restreinte, moins il y a de flexibilité aussi de repartir le travail et d'avoir des conditions aussi de créativité qui sont dignes du travail du scénariste. Donc, ce n'est pas vraiment à la marge, ce n'est pas un de plus. C'est vraiment avoir la souplesse pour celui qui dirige la salle d'écriture de pouvoir engager autant que besoin pour que le travail soit fait correctement.
Ça crée un encadrement tout court, entre guillemets.
Tout à fait.
Et vous parliez du fait que les plateformes, justement, dans des logiques d'abonnement et donc d'urgence de devoir terminer leur scénario à temps pour tourner à temps, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Est-ce que les plateformes apportent une pression en plus que celle des chaînes de télévision, ou c'est la même pression, ou c'est juste qu'il y a plus de...
C'est différent. Les chaînes de télévision étaient assez interventionnistes. Les plateformes ne travaillent pas de la même manière. Ils ont déjà le système américain est très différent du système français, vous pourrez nous expliquer tout à l'heure. Mais les plateformes ont tendance à laisser croire que la créativité est du côté des talents, mais au final, tout revient à la sortie de la saison. Et donc, leur logique de dépenses a changé dans le temps. Avant, on avait l'impression de millions de dollars qui étaient versés dans la création. Cette époque est révolue. On n'est plus du tout dans la dépense sans compter, y compris chez Amazon. Hein. On est vraiment dans une nouvelle phase des plateformes. On va rationaliser la dépense. Et donc, la tendance vers des salles d'écriture plus restreintes, un contrôle de coût plus important, l'arrêt brutal de certaines saisons, alors que même ceux qui dirigent les salles ne comprennent pas pourquoi la série est terminée, montre que même grâce à l'IA, ils sont en train de voir ce qui marche assez rapidement et donc d'arrêter l'écriture assez rapidement aussi de nouvelles saisons.
Surtout que ça me renvoie à un livre que je recommande. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Sabine Le Soum, Chiara Kitsopanidou. Et puis même, chers auditeurs, si vous nous écoutez, je vous recommande vivement de lire le livre l'essai de Romain Blondeau qui s'appelle Netflix, l'aliénation en série, et qui parle très bien au début de Netflix de la manière dont dont Netflix cherchait sa patte et cherchait quel algorithme marchait le mieux, quel public marchait le mieux. mieux et du coup au départ était un Eldorado intéressant pour en tout cas pour les séries, pour le cinéma on va y revenir, et qui petit à petit à force de consolider son algorithme a annulé énormément de séries, notamment Sense8 des sœurs Wachowski, parce que Netflix se rendait compte que l'algorithme marchait plus. Netflix, l'aliénation en série, c'est un livre de Romain Blondeau que je recommande pour éclairer la discussion. Sabine Le Stoum, est-ce que vous avez aussi cette perception des plateformes en France chez les scénaristes que vous représentez? Je ne sais pas si vous représentez des scénaristes de longs métrages Netflix. Là, on arrive à une question peut-être un peu épineuse de est-ce que les films de plateforme sont considérés comme des films de cinéma et auquel cas, est-ce que vous les représentez à scénaristes de cinéma associés?
Alors, un film de cinéma, c'est un film qui sort en salle en France. Donc la définition, elle est très claire. Si ça sort uniquement sur une plateforme, ça n'est pas un film de cinéma. Évidemment, on sait qu'il y a des films qui sont sortis directement sur la plateforme parce que, bon, essentiellement de réalisateurs très connus, hein, pour des effets d'annonce et d'image. Donc ça c'est pour vous répondre, hein. On a oui des scénaristes qui ont écrit des films ou des longs métrages qui ont été diffusés sur la plateforme ou qui ont été produits par Netflix, puisque maintenant Netflix aussi contribue, hein. Enfin comme toutes les plateformes d'ailleurs, on cite Netflix mais c'est pas la seule, contribue au financement du cinéma français. Et donc oui, je peux vous répondre si vous avez une question.
Non, je disais question épineuse parce que notamment de la part des plateformes, le débat est un peu plus complexe. Mais allez-y.
Oui, je voulais ajouter une chose en fait, c'est que ce débat sur est-ce que c'est un film de cinéma, ça sort pas en salle. Finalement, j'ai envie de dire, c'est quand même la version française qui a triomphé parce que aux États-Unis, ils se sont rendus compte que en fait, sortir un film directement sur une plateforme, c'était idiot. C'est-à-dire que les films qui sortent directement sur plateforme, ils sont moins vus sur la plateforme que les films qui sortent aussi en salle. Donc, ils ont compris maintenant qu'il y a un lien vertueux entre la sortie en salle et ensuite le fait que le film soit présent sur plateforme. Donc, ça pose plus vraiment de problème aujourd'hui. Un film de cinéma, c'est un film qui sort en salle et ensuite il est disponible sur la plateforme.
Et Cocorico,
oui, c'est vrai que là, on peut faire un Cocorico. Il se trouve que l'expérience salle, elle est irremplaçable et en fait, elle valorise un film.
C'est vrai que c'est une question aussi qui s'est posée tout à fait. Et donc, pour répondre à cette question, est-ce que vous, au niveau des scénaristes que vous connaissez, peut-être que vous représentez, qui travaillent ou qui ont travaillé pour Netflix, est-ce que vous voyez aussi cette accélération du travail, c'est peut-être moins prégnant en France?
Alors, honnêtement, les cas sont encore assez rares, donc on ne peut pas parler d'une tendance générale. Vous voyez, c'est plutôt des expériences individuelles qui nous sont remontées. Et pour l'instant, on ne peut pas dessiner une tendance générale. C'est-à-dire que souvent, il y a quand même des recommandations, hein, en termes dans les contrats des plateformes. En général, hein, c'est plus lié au système américain qui a telle ou telle plateforme.
Qu'est-ce que vous voulez dire par recommandation?
Des recommandations de type réputation. Tout ce qui est réputation peut être une occasion de sortir un auteur d'un projet. Il y a beaucoup aussi de guidelines donc qui concernent tout l'aspect moral en fait, hein, des créations qui sont quand même un petit peu étonnantes ou exotiques on va dire pour des auteurs français. Mais bon, il y a quand même des expériences très positives aussi, hein, donc pour l'instant c'est difficile de tirer des généralités. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que bien qu'ils aient beaucoup investi dans la création, bon, en particulier du visuel, mais aussi un petit quand même dans le cinéma, on n'a pas vu un cinéaste émerger grâce aux plateformes. On ne sent pas chez elles une volonté de pousser des nouveaux talents, de tester des choses et de s'intéresser réellement au cinéma.
S'intéresser à la jeune création aussi, voilà, pose beaucoup de questions.
Ils ont plutôt fait travailler des auteurs qui étaient déjà reconnus ou même des auteurs qui, sans être des noms aussi importants que ceux qu'on a pu voir, étaient quand même des auteurs déjà bien établis.
Donc effectivement, parmi les cinéastes qui ont pu œuvrer et mettre en scène en France, il y en a, je connais pas si bien en vérité les questions de les réalisateurs qui sont passés du côté français. Cela dit, il y a eu aussi des séries, je crois qu'il y a eu Louis Leterrier. Est-ce que c'est un réalisateur plus français ou américain? On ne sait pas trop. En tout cas, il est de nationalité française. Il a réalisé la série Lupin. Il y a eu aussi, au niveau des grands noms du cinéma français, des Martin Scorsese, il me semble qu'Alfonso Cuarón aussi a réalisé Roma.
On reste quand même sur une constellation de labels et des marques
hein, oui.
Qui sont déjà reconnues par des publics mondiaux. Et je pense que la cinématographie française n'est pas exclue de ces phénomènes de marque. Elle cherchait vraiment des signatures fortes parce que la cinématographie française est parmi les plus mondialement connues. Peut-être que si on regardait sur le paysage coréen ou latino-américain, peut-être qu'il y a une émergence des talents. Donc il faut faire des études un peu plus poussées pour savoir si cet effet-là peut être sensible ailleurs que dans nos cinématographies occidentales. Mais il est vrai que Netflix a sa propre écurie des talents dans laquelle elle investit la plateforme énormément d'argent pour être de moins en moins dépendante aussi peut-être des calendriers, des tournages, des acteurs hors écurie en quelque sorte. Après, la plateforme, quand elle est arrivée en France, elle a beaucoup investi dans l'audiovisuel en captant des talents d'écriture pour les séries. Et donc, moi, j'ai eu des échos de scénaristes qui n'en parlaient pas beaucoup, mais on savait très bien qu'ils avaient plusieurs projets et avec une exclusivité hein, quasiment d'écriture pour telle ou telle plateforme, ce qui privait les acteurs, puisque vous m'avez parlé tout à l'heure des diffuseurs historiques, de main-d'œuvre en fait et des talents pour créer pour les diffuseurs nationaux. Et donc, la question s'est posée de souveraineté même pour la création française, si tous les talents, les studios de tournage aujourd'hui, les fabricants sont captés par les plateformes.
Par les plateformes de streaming, tout à fait. On parlait aussi des acteurs, justement. Un mot sur les acteurs qui sont toujours en grève, pour le coup, aux États-Unis. Vous me disiez hors antenne, Chiara Kitsopanidou, que les acteurs étaient toujours en grève, mais que c'était une question de temps avant que ça se résolve. Comment ça se passe de ce côté-là? On est aussi sur des questions de conditions de travail, on est aussi sur des thématiques proches de celles des scénaristes.
Notamment sur l'IA.
Sur l'IA dont on va parler après la prochaine pause.
Sur l'IA qui est un gros sujet, sur le scanning de leur corps pour pouvoir ensuite créer des acteurs virtuels, y compris post-mortem, mais aussi sur leur rémunération, hein, qui est un sujet qui a beaucoup rapproché les deux corps de métier. Ils n'étaient pas réunis dans une lutte commune depuis quand même les années 60, hein, donc c'est une grève assez historique parce qu'elle a complètement mis à l'arrêt les tournages de films et des séries, parce que s'il y avait des projets qui étaient quand même assez avancés en termes d'écriture, ils ne pouvaient plus être tournés parce que les acteurs s'étaient mis en grève. Et aujourd'hui, la continuation la grève des scénaristes risque de bouleverser encore plus la fin des tournages. À supposer qu'il y a de l'écriture qui reprenne derrière, le calendrier des acteurs est lui-même bouleversé parce qu'il va falloir prioriser maintenant les points de départ à nouveau des tournages. Donc c'est une grève problématique et justement c'est pour cette raison-là que les producteurs sont pressés à y mettre fin. Parce que suite à un bref calcul de Financial Times, on parlait de 5 milliards de pertes. Ce qui est un énorme chiffre pour l'industrie. Donc, si les acteurs continuent encore un peu plus la grève, c'est clair que ça va créer un énorme gouffre pour les streamers et les producteurs.
Ça va créer un gouffre pour ces studios, pour globaliser, puisque tous sont des studios aujourd'hui. Et ça va aussi poser question sur les questions de recettes aussi dans les années à venir, puisqu'il y a aussi des prévisions. Je ne sais pas si vous en parlez un très court instant de ça, mais il y a aussi des prévisions de pertes pour les cinémas, pour les salles de cinéma elles-mêmes, au niveau des box-office. Je ne sais pas si vous pouvez, manière très courte.
Oui, tout à fait. C'est assez simple. Ça va rassembler un tout petit peu ce qu'on a vécu post-Covid, avec l'absence de machines hollywoodiennes qui portaient le chiffre d'affaires des salles vers le haut, pour permettre justement de prendre des risques sur le reste de la production, sachant que les deux interagissent dans le départ de la demande. Si vous avez que le film d'auteur, vous perdez une partie du public. C'est dans la diversité de l'offre que se trouve la diversité de la consommation et donc l'évolution de la fréquentation. Pendant que les films américains étaient absents, c'est le cinéma français qui a pris le relais. et donc a soutenu la fréquentation, hein, notamment certaines comédies d'auteurs qui ont surperformé. Mais on a quand même senti au box-office final l'absence de ces grosses machines. Donc il est clair qu'avoir en 2 ans d'écart des phénomènes qui se rapprochent, ils ne sont pas tout à fait semblables, mais qui créent les mêmes effets sur le marché, c'est dramatique pour les salles de cinéma.
Pareil, Sabine Le Stoum, de manière très courte, ça vous inquiète aussi ces retombées qu'il peut y avoir ou au contraire, du moment que ça permet de faire avancer les choses aussi pour les acteurs et qu'ils prennent leur temps pour reprendre les tournages, ça vous pose question ou...
Ouais, là, c'est plutôt des spécialistes des salles de cinéma qui pourraient effectivement anticiper un peu ce qui va se passer si les calendriers de sortie sont bouleversés, mais... C'est sûr que c'est pas une bonne chose et qu'il aurait été mieux que les scénaristes puissent obtenir une juste rémunération sans être obligés de ne pas travailler et de ne pas gagner d'argent non plus, eux non plus, pendant 5 mois.
C'est sûr que d'une manière générale, on préfère, même les grévistes préféreraient ne pas faire grève, effectivement.
Voilà.
19h36, on va continuer de parler de cette grève à Hollywood. On va arriver au sujet de l'intelligence artificielle, mais d'abord, on va écouter une page de publicité, une page de publicité qui vous est proposée par Rosalie Berne et ses incursions humoristiques et cinéphiles.
Après le popcorn sucré et le popcorn salé, retrouvez le popcorn amer dans tous vos cinémas. Un popcorn spécial comédie française parce qu'il n'y a pas que les restaurants qui font accord mets et vins. Le cinéma aussi s'accorde sur son popcorn au type de film. Retrouvez le popcorn amer avec votre comédie française dans tous vos meilleurs cinémas. Vous ne trouvez personne pour voir le dernier film de guerre du réalisateur ouzbek filmé avec une GoPro sous l'eau pour parler de son amour des chaussettes en temps de guerre? Ou simplement, vous n'avez pas d'amis et même dans le noir ça vous gêne? Alors ne vous inquiétez pas, les cinémas Gocon et mon pâté ont pensé à tout. Pour 95,99€, vous serez accompagné des plus grands cinéphiles actuels. Et oui, pour 95,99€, vous pourrez louer des punaises de lit. Et croyez-nous, ils sont peints sans rire. Dans la limite des punaises disponibles. Après le popcorn sucré, le popcorn salé et le popcorn amer, retrouvez le popcorn piquant. Et oui, rajoutez de la piquance à votre vie pendant que vous regardez un film russe d'après-guerre ou les derniers Tarantino. Rien de mieux pour se réveiller. Enfin, vous ne mentirez plus à vos amis quand vous leur dites « Attends, non mais le dernier Tarantino, franchement c'est pas long, hein, moi je me suis vraiment pas endormie. » La boutique Sexy and the City s'associe avec les cinémas CGRAVE. Avec vos popcorns, vous pourrez aussi louer une panoplie d'objets. Retrouvez notre best-seller, Les menottes avec camisole, pour être sûr de bien rester à la fin de tous les films afin de dire que vous êtes un vrai cinéphile. Nous proposons aussi à la location des fouets pour fouetter les adultes comme les enfants qui ne savent pas se taire pendant un film. Ne manquez surtout pas les lubrifiants pour mieux glisser de vos chaises quand vous voulez vous enfuir. Des godemichets vous seront proposés pour toute séance des films d'Abdelatif Kechiche. Depuis l'invasion médiatique des punaises de lit, vous avez l'impression que vous en avez tout le temps sur le corps? Vous vous imaginez des scénarios d'horreur avec votre logement recouvert de puces de lit? Alors n'attendez plus et inscrivez-vous dans une formation scénario à la PMIS. Vous vous formerez auprès des meilleurs, comme du collectif survivaliste au dialogue culte, et le gourou conspirationniste dont on ne connaît pas le nom parce que les noms et les prénoms sont une conspiration du gouvernement pour nous contrôler. Oui!
Merci Rosalie Berne pour ces trouvailles de publicité absolument, absolument fantastiques. Il est 19h38, vous écoutez toujours Curiosity, on se retrouve après une pause musicale avec nos invités.
Yeah.
C'était Cléopatra in New York, remixé par Zim Zam sur Radio Campus Paris. Vous pouvez l'entendre en revoyant le film Her de Spike Jones avec Joaquin Phoenix et la voix de Scarlett Johansson. 19h41.
Curieux ciné.
D'après le Robert De Niro, désigne une tendance qui porte à apprendre, à connaître des choses nouvelles et cinéphiles.
Un vendredi sur deux à 19h sur Radio Campus Paris.
Nos invités, Kéra Kitsopanidou, directrice de l'UFR Arts et Média de l'Université Sorbonne Nouvelle et spécialiste du cinéma et de l'économie du cinéma et de l'audiovisuel, et Sabine Lestoum, déléguée générale de scénariste de cinéma associé, sont toujours en plateau pour aborder avec vous, chers auditeurs, la grève à Hollywood. Tout va bien, on se reprend, c'est la fin de la semaine. Sabine Lestoum, il me semble que vous vouliez préciser quelque chose. On parle d'accord depuis tout à l'heure, notamment d'accord pour les scénaristes. Et il me semble que justement en France, la question n'est pas tout à fait réglée à l'échelle du cinéma. Je ne sais pas si vous voulez nous en toucher un mot.
Oui, c'est-à-dire qu'en France aussi, on cherche à protéger nos scénaristes. Et on y arrive par la voie de la négociation. Donc il y a déjà plusieurs accords qui ont été signés pour protéger les auteurs et encadrer leur rémunération dans les secteurs du documentaire, de l'animation et de l'audiovisuel. Et nous sommes en cours de négociation pour un accord dans le secteur du cinéma. Donc on a bon espoir d'aboutir, je l'espère avant la fin de l'année, on verra, à signer cet accord avec tous les représentants des producteurs.
Affaire à suivre donc de ce point de vue-là. Je ne sais pas si vous vouliez préciser si vous... C'est un sujet que vous suivez, Kéra Kitsopanidou ?
Un tout petit peu, mais beaucoup moins que ma collègue. Bah, il est vrai que depuis l'arrivée des plateformes, tout l'argent de la filière est allé davantage du côté de l'audiovisuel que du cinéma. Et puis, l'augmentation des coûts de production des films a fait que les producteurs sont un peu frileux d'investir en développement. Donc, ils font porter le coût du développement d'un projet de plus en plus sur le scénariste, dont le niveau de rémunération n'a pas évolué, ou très très peu. Ce que je disais un peu off-plateau, c'était que même le temps de la nouvelle vague, et pourtant on sait ce que la nouvelle vague a fait sur le statut du scénariste, la part du scénario de le développement d'un projet était beaucoup plus importante qu'elle est aujourd'hui. Oui. Donc même si le pourcentage n'est pas le seul indicateur, c'est important de dire qu'on était à peu près à 10% et aujourd'hui à 3 ou 4%. Oui. Ce qu'on investit dans la recherche et le développement d'un projet artistique, parce qu'on peut assimiler la phase d'écriture et développement du scénario à l'étape du développement d'un projet artistique.
Tout à fait.
Il y a une nouvelle donnée qui s'inscrit, qui pourrait s'inscrire dans un futur proche ou lointain dans la création et le développement de créations littéraires ou audiovisuelles, c'est la question de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a animé beaucoup les débats pendant les grèves à Hollywood, que ce soit du côté des scénaristes, donc par peur d'être remplacés dans le cadre de l'écriture d'un projet, et aussi par les acteurs, sachant que ça arrive déjà un petit peu, la question de l'intelligence artificielle du côté des acteurs, puisqu'il y a déjà des techniques, notamment les techniques du deepfake. Enfin, énormément de techniques sont déjà là et prêtes à usage. Est-ce que la question de l'intelligence artificielle, vous êtes soulagé de voir l'accord aussi qui a été signé par les scénaristes du côté de l'intelligence artificielle spécifiquement, Sabine Lestoum ?
Ah oui, beaucoup. Oui, oui.
Ça défriche le terrain, ce que vous disiez hors antenne, il me semble.
Oui, et puis c'est vrai aussi que les Américains, comme souvent, sont pionniers sur ces technologies. Donc c'était très important que les auteurs puissent faire entendre leurs revendications tout de suite. Parce que ça aurait été beaucoup plus difficile pour nous, Européens, de faire entendre les nôtres, qui sont assez clairs, en fait, si du côté américain, on était dans une dérégulation complète.
Sachant que pour préciser ce qui a été signé notamment dans l'accord avec les scénaristes, donc l'intelligence artificielle ne pourra pas être motrice d'une création. Il pourra y avoir un usage de l'intelligence artificielle dans le cadre d'un travail d'écriture, mais uniquement une dimension humaine, exactement, et des règles qui sont respectées. Enfin, Kéra Kitsopanidou, je ne sais pas si vous pouvez préciser un petit peu.
Le point qui donne le plus de satisfaction, c'est que les studios ne peuvent pas reprendre des projets anciens de scénarios pour pouvoir le mettre dans la moulinette de la machine et fabriquer du nouveau à partir de l'existant, parce qu'on est toujours dans la reproduction d'un status quo artistique. Donc, et si l'intelligence artificielle intervient dans un projet, il faut absolument que la part de l'IA soit transparente, c'est-à-dire qu'on puisse dire cette partie-là a été générée par l'IA, et donc d'identifier la part humaine de la part totalement créée par la machine, ce qui est une victoire certaine, parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, on est dans un domaine de deepfake, donc il y a des images d'une absolue beauté qui circulent, qui sont fabriquées 100% ultra réalistes par l'IA, dont on se pose aujourd'hui la véritable source d'auteur. Qui est auteur dans ce cas-là? Bon, j'ai vu hier, j'étais à la nuit des idées de l'université Paris 1, où on a vu des images époustouflantes générées par l'IA, certes époustouflantes, mais la question s'est posée, mais qui est l'auteur finalement? À qui on attribue cette création?
Est-ce que c'est à l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est à la personne qui a activé la machine? C'est ça, c'est dans ce sens-là que se pose la question, Sabine Lestoum?
Oui, alors ça, c'est un aspect très important. C'est le premier aspect, on va dire, c'est le premier étage de toute cette fusée de l'intelligence artificielle. C'est qui est titulaire des droits? On en parlait tout à l'heure. Hein, en France, c'est l'auteur. Aux États-Unis, c'est le producteur. Mais avec l'intelligence artificielle, la question se pose aussi. Donc, ce que les scénaristes américains ont obtenu, c'est déjà que si on leur soumet du matériel qui vient de l'intelligence artificielle, ce matériel-là n'est pas considéré comme titulaire de droit. Donc, c'est très important. Je pense qu'on le précisera aussi dans la législation française que seul un humain peut être titulaire de droit d'auteur. C'est vraiment un aspect fondamental. L'autre aspect qui est très important dans ce qu'ont négocié les Américains, c'est la liberté que les auteurs auront d'utiliser ou non ce matériel. C'est-à-dire qu'un auteur doit pouvoir avoir le choix de travailler avec l'IA ou pas. Et donc le studio n'a pas le droit d'imposer en fait l'IA à un auteur. Je pense aussi à un enjeu, on est obligé d'en parler tout de suite, l'enjeu majeur, vous en avez parlé en fait, de l'IA, c'est aussi la question de la transparence. Donc le Parlement européen a déjà statué sur cette question. C'est très important que des œuvres générées par IA soient identifiées comme telles et par les auteurs et par le public. Tout le monde a le droit à l'information et c'est important aussi parce que ça va permettre d'identifier les œuvres qui ont servi aussi à générer des nouvelles œuvres. Parce que ces intelligences, elles n'inventent rien. Hein. Elles travaillent à partir de sources existantes. Donc...
Elle travaille notamment dans le cas d'intelligence artificielle un peu plus littéraire, si j'ose dire. En l'état, c'est des technologies qui peuvent reproduire des hypothèses. Enfin, sur la base de ce qui existe déjà, elles ne peuvent proposer que des hypothèses de ce qui pourrait être une création. Enfin, il y a aussi notamment, par exemple...
Un peu plus que des hypothèses. Hein. Et la machine concrétise des pistes de création, peut avancer avec de temps assez accéléré un niveau de création, par exemple dans les effets visuels. Dans le domaine des effets spéciaux, l'animation, le jeu vidéo, on est vraiment sur la création d'univers immersifs, ultra réalistes hein, qui s'effondrent en très peu de temps. Et même par rapport à un réalisateur, les notes d'un assistant réalisateur pourront être générées avec deux ou trois fois de plus de vitesse que celle par un humain qui peut prendre une journée ou deux journées pour faire ses notes. Mais l'IA en écriture, pour revenir un peu sur cette question-là du scénario, on la verra, je pense, davantage du côté des formes très industrialisées de création, comme par exemple un feuilleton télévisuel qui doit aller très vite, qui doit générer constamment de nouveaux contextes d'action et des personnages à partir d'une bible. Donc l'IA pourra proposer beaucoup plus rapidement des contextes ou des personnages ou des histoires que le scénariste pourra ou pas choisir.
La Bible, je précise, c'est le support d'écriture des scénaristes dans le cadre de séries avec des fiches personnages, des fiches contextes, enfin, il y a énormément de choses. Sabine Lestoum, vous parliez du Parlement européen et du travail qui est déjà engagé dans le cadre de l'intelligence artificielle. L'Europe, c'est un support sur lequel vous comptez autant que ce mouvement social qui vient de se terminer pour les scénaristes américains. Sans l'Europe, on ne peut pas se battre contre cet essor-là, ou en tout cas, on ne peut pas le réguler.
Mais en fait, il y a deux niveaux, c'est-à-dire qu'il faut agir au niveau de la loi, donc au niveau européen, soit d'une directive, et transposée dans le droit national français. Et puis, il faut agir au niveau des usages interprofessionnels. Donc, ce n'est pas tout à fait le même niveau. Donc, ce que les scénaristes américains ont obtenu, c'est une régulation des usages. Comment ça va se passer entre un auteur et un producteur, ce maniement de l'IA. Mais il faut aussi un socle législatif qui nous garantisse, par exemple, que les œuvres qui ont servi à nourrir l'IA sont identifiées, qui nous garantissent que les œuvres qui sont produites grâce à de l'IA sont également identifiées, et puis, on l'espère, qui nous garantissent aux auteurs de ces œuvres qui ont nourri les intelligences artificielles une rémunération.
Oui, c'est aussi la question qui se pose.
C'est ce que la SACD a déjà fait des propositions en ce sens, et nous y sommes évidemment très favorables.
La SACD qui travaille énormément à la condition des autrices et auteurs, pas que pour le cinéma et l'audiovisuel d'ailleurs, mais c'est d'ailleurs la SACD qui a permis notamment d'essayer d'imposer, parce que c'est pas forcément déjà en vigueur, mais qui essaie d'imposer aux plateformes, on parlait de jeune création tout à l'heure, d'essayer de demander aux plateformes de permettre une meilleure rémunération aussi pour la jeune création. Enfin, la SACD est très importante dans ce processus-là. Kira Kitsopanidou, justement, le travail de la SACD, d'associations comme Scénaristes de cinéma associés, qu'est-ce que vous voyez comme travail en train de poindre, si je puis dire,
par rapport à l'IA.
Par rapport à l'IA, oui.
C'est justement de mettre un peu des alertes sur des mauvais usages, puisqu'on est vraiment sur la régulation des usages. Prévoir aussi ce que les producteurs ou les diffuseurs vont faire de cette nouvelle technologie. On voit que les networks aux États-Unis et les streamers l'utilisent déjà et embauchent des techniciens qui sont capables d'accompagner cette révolution-là. Donc on va la subir aussi, j'ai envie de dire, malheureusement. Et pour revenir un peu à l'observation de ma collègue, l'IA Act est là pour poser des grands principes de droit, et notamment sur la reconnaissance faciale, dont on n'a pas parlé ici, qui est un énorme sujet de démocratie, des débats publics aussi, parce que sur le deepfake notamment. Mais en dehors de ça, il y a l'IA prédictive aussi. Est-ce qu'on est dans un système de sagesse de la machine qui nous enferme dans une bulle, et donc du coup un vrai danger aussi au niveau de la démocratie. Donc il y a plusieurs formes d'IA que l'IA Act essaye de réguler, déposer des grands principes. Après, les associations professionnelles prennent le relais sur des branches spécifiques pour réguler des pratiques et trouver des systèmes de coordination des acteurs en place pour éviter justement qu'il y a des déviations où il y a des usages qui remettent en question la création et même la régulation du système actuel.
Sabine Lessoum, vous alliez dire quelque chose ?
Oui, tout à fait.
En quelques mots, parce qu'il va falloir conclure. C'est très juste. Mais c'est une bonne phrase de conclusion, finalement. Mais pour recouper, en tout cas, tout ce qui a été dit ce soir, pour le coup, la grève des scénaristes, des acteurs et actrices d'Hollywood aura vraiment défriché le terrain sur la question de l'intelligence artificielle. Il y a un travail qui est en cours au Parlement européen et bientôt en France qui arrive. C'est le cheminement qui est très intéressant dans tout ça. C'est l'heure de se dire au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kira Kitsopanidou, d'avoir été micro de Curieux Ciné. Vous êtes directrice de l'UFR Arts et Médias de l'Université Paris-Sorbonne Nouvelle et spécialiste de l'économie du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous, Sabine Lestoum. Vous êtes déléguée générale de Scénaristes de cinéma associés. Rendez-vous sur scénaristesdecinemaassociés.fr
pour
plus d'informations sur votre action. Sur Le Monde, je rappelle, pour lire la tribune sur l'intelligence artificielle dont l'association est co-signataire. Et je précise, parce que c'est un livre que j'ai moi-même lu et qui m'a vraiment passionné. Allez lire Scénariste de cinéma, un autoportrait, qui est un livre publié aux éditions Anne Carrière, si vous intéressez à ce métier. Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 19h55.
Curieux Ciné.
D'après le Robert De Niro, désigne une tendance qui porte à apprendre, à connaître des choses nouvelles et cinéphiles.
Un vendredi sur deux à 19h sur Radio Campus Paris.
Et on a beaucoup parlé de la grève des scénaristes pendant cette émission, mais pouvons-nous faire des films sans scénaristes ? Pour en parler, je reçois Gérard Script, responsable du No Scenarist for Movies Syndicate. Bonsoir, Aymeric.
Bonsoir.
Selon vous, la grève des scénaristes a été trop prise au sérieux.
Mais oui, monsieur Marie, soyons sérieux. Je pense qu'on a donné beaucoup trop d'importance aux scénaristes. Car en réalité, à quoi servent-ils ?
à écrire des scénarios. Je crois que notre invité à ma droite peut en attester, pour faire vivre des films, raconter des histoires.
Blablabla, bla, bla. Je n'entends que blablabla, bla, bla, monsieur Marie. Regardez en France, cela fait des années qu'on se passe de scénariste. Si on regarde des séries comme Marseille, Candice Renoir, Lupin ou Sœur-Thérèse.fr...
.com.
Pardon ?
.com, Gérard. .com.
Ah oui, bref, je pense que le cinéma ne perdrait pas grand-chose à se passer de scénariste. J'ai d'ailleurs de nombreux projets de films prometteurs qui n'ont pas de scénario, avec pourtant des grands noms du cinéma.
Par exemple ?
Par exemple, Ryan et Idriss.
C'est quoi l'histoire ?
Ryan Gosling et Idriss Elba entrent dans une pièce.
Et ?
C'est tout.
Ça dure combien de temps ?
Ça dépend. Si c'est une comédie, 1h30. Si c'est un film intello, 4h30. Plus le film est long, plus les gens ont l'impression d'être intelligents. Surtout s'ils n'ont rien compris.
Mais les gens vont s'ennuyer énormément.
Oh non, rassurez-vous. Il y a des éclairages de folie, des jeux d'ombre. À 1h56, Ryan Gosling tousse et Idriss Elba croise les jambes à 2h08. Bon, c'est une impro, hein, je vous cache pas.
D'accord. Mais comment allez-vous faire pour les séries ?
Pareil. Regardez la série Sex Education. Inutile de créer des romances, des emberlifications, des problèmes relationnels insolubles.
Quelle est votre idée ?
Les comédiens rentrent dans une pièce et ils baisent.
Et ?
C'est tout.
C'est tout.
Oui, pendant 45 minutes et 8 épisodes.
Mais les téléspectateurs vont s'ennuyer.
Oh non, mais rassurez-vous, ils vont changer de partenaire, de position, il y aura des hétéros, des homos, des bi, des queers, des trans.
Et êtes-vous sûr que les acteurs sont prêts pour faire tout ça ?
Parce évidemment.
C'est du boulot quand même.
Évidemment, ils ont déjà commencé d'ailleurs avec le collectif des DDC.
Ça veut dire quoi encore ?
Depardieu, Deneuve, Clavier.
Pourquoi ?
Parce que quel que soit le scénario, il joue toujours pareil. Mais au-delà de ça, nous avons déjà des exemples de personnes qui se disent scénaristes mais qui réussissent à faire des films sans scénario.
Personne fait ça.
Bah si.
Qui ?
David Lynch.
En effet, c'est injuste, mais en effet. Merci Gérard Script, et on vous souhaite bonne chance dans
merci.
Votre activité. Quel est le nom du syndicat déjà ?
Le...
Retrouvez vos fiches, mon vieux.
Le No Scenarist for Movie Syndicate.
Eh bien, on souhaite un non-avenir à ce syndicat et on souhaite un bel avenir au syndicat de scénaristes. Il est 18h58, c'est déjà l'heure de se quitter. Merci à vous d'avoir écouté ce deuxième numéro de Curiosiné. Il me reste un peu de temps pour remercier celles et ceux sans qui cette émission n'aurait rien été ou sinon peu de choses. Merci donc une nouvelle fois à Kira Kitsopanidou et Sabine Lestoum, nos deux invités qui se sont prêtés au jeu de cette discussion sur les grèves à Hollywood et tout ce qui a suivi. Maintenant, merci à mes comparses qui m'ont accompagné ce soir, Rosalie Bern et Maxime Faciotti, pour leurs incursions humoristiques et cinéphiles, et Colin Gruel à la console pour ce deuxième numéro. J'ai tous les colocs, j'ai eu Swan la semaine dernière, Colin cette semaine, c'est formidable. La soirée ne fait que commencer sur Radio Campus Paris. Échappée Ferroviaire vous fait redécouvrir l'Île-de-France au rythme de ses voies ferrées à 20h, et à 20h, La Souterraine avec Laurent Bajon, puis Thint Chapelle à 22h30 avant de partir en Campus Club à minuit et en musique tout le reste de la nuit. Prochain rendez-vous cinéma sur les ondes, c'est dimanche avec Léa Lutz et son panoramique à 21h30. Quant à Curiosiné, on se retrouve dans deux semaines, à savoir le vendredi 20 octobre, toujours à 19h sur le 93.9 FM et en Ile-de-France et sur le DAB+. D'ici là, en podcast, radiocampusparis.org, les internets, @curiosiné_rcp et les applications de podcast, toute information complémentaire en allant sur internet. Très bonne soirée sur le 93.9, cordialement.